êtes toujours à l'écoute de Radio Larzac et c'est Showtime, votre émission cinéma et pop culture qui prend l'antenne. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Showtime, votre émission cinéma et pop culture sur les ondes de Radio Larzac. Showtime, c'est une émission qui dure depuis 11 ans déjà et dont voici le programme du 7e épisode. Pour cette émission du mois d'avril, je vais vous présenter ce qu'il m'aura marqué depuis la précédente émission, mais pas que, ça sera également le moment de vous parler d'un genre qui me tient à cœur, celui de la fantasy, et justement ce que j'ai pu y voir depuis le mois dernier va me permettre de bien vous en parler. Bref, tout un programme pour ce nouvel épisode de Showtime axé sur la fantasy. Showtime, saison 11, épisode 7, on y va. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec une petite musique, histoire que je puisse reprendre un petit peu mon souffle. Je suis un petit peu dans le speed pour le coup. Allez, c'est parti pour du Seven Spear, ça va nous mettre dans l'ambiance Almost Town. We'll be right back. C'était donc Seven Spears Almost Town. Bon, allez, je vous propose que l'on se lance dans le cœur du propos de cette émission.
Focus sur
la fantasy quakesse. Remarquez ce superbe tapis que je viens de vous faire. Mais oui, pour ce nouvel épisode de Showtime, j'avais envie de vous parler de fantasy. Les dernières sorties de La Demoiselle et le Dragon, Final Fantasy VII Rebirth et ou encore Dragon's Dogma 2 m'ont donné envie de me replonger dans ce genre. Il faut dire que l'arrivée du printemps et des beaux jours aide à cette envie de voyage, d'aventure. On a aussi une belle région qui s'y prête. Je vous propose donc de nous équiper et de partir dans cette nouvelle quête. Alors, le genre de la fantasy, quoi qu'est-ce ? Un célèbre dictionnaire nous le définit ainsi. Genre littéraire qui mêle dans une atmosphère d'épopée les mythes, les légendes et les thèmes du fantastique et du merveilleux. Recommandation officielle, fantasy, on dit aussi héroïque, fantasy. Ça, c'était donc la définition. Et c'est que ça amène, cette définition, des notions supplémentaires, notamment en nous parlant du sous-genre de la héroïque fantasy. Mais tout ça, ça ne nous en dit pas plus quant à l'histoire justement du genre de la fantasy. Je vais essayer de vous décortiquer tout ça. De ce que j'ai pu lire, ça serait plus récent qu'on ne le croit. Dans la littérature, ça serait à partir du 19e siècle que seraient apparus les premiers romans du genre. Pour autant, c'est vraiment à partir du début du 20e siècle que des auteurs qui parleront au plus grand nombre, comme Robert E. Howard et Lovecraft, publieront des œuvres comme les nouvelles du cycle Conan le barbare pour l'un et Dagon, ainsi que bien d'autres nouvelles et romans pour l'autre. Ok, Lovecraft, on l'associe plus à l'horreur, mais pourtant, on trouve des notions de fantastique, de fantasy, dans le genre horrifique. Après, je ne pense pas vous en détailler tous les genres, ça serait long. Quoique, si le temps me le permet, peut-être que j'y reviendrai. Enfin bref, malgré ces beaux noms, et je vous en passe d'autres comme la romancière australienne Pamela L. Travers avec Mary Poppins, la fantasy manque encore de reconnaissance. C'est là que nous arrive un auteur. Bon, il est déjà bien installé car il a déjà publié en 1937 et 1947. Mais c'est surtout par sa saga du Seigneur des Anneaux que J.R.R. Tolkien va capter l'attention du public pour la fantasy. Avec Le Seigneur des Anneaux, nous sommes plus dans le genre du médiéval fantastique. Et ce n'est qu'en 1972 que nous, Français, pourrons lire cette épopée dans la langue de Molière. Je me permets de revenir vers le médiéval fantastique pour vous l'expliquer un petit peu. C'est, de ce que j'ai cru comprendre, une sorte de sous-genre. Enfin, c'est un peu particulier, la traduction du sous-genre qu'est la heroic fantasy. Et, de mes recherches, ça reprend le gros de la définition que j'ai pu vous lire plus tôt. Donc, comme vous avez pu le comprendre jusque-là, c'est un genre qui a petit à petit, je parle de la fantasy, gagné en puissance un peu partout dans le monde, puisque faisant aussi au fur et à mesure sa place dans d'autres médias. C'est là que l'on revient au cœur de l'émission, le cinéma. Car c'est en 1939 que l'on peut parler de l'arrivée du genre de la fantasy dans les salles obscures avec Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, adaptation du roman du même nom de L. Frank Baum. Pourtant, c'est le succès au box-office de Conan le Barbare de John Milius avec Arnold Schwarzenegger qui va permettre aux gens de percer aux yeux du grand public sur le grand écran. Et justement, si l'on continue de parler de ce genre dans les salles, on le doit aussi à une certaine trilogie. Bah tiens, comme par hasard, c'est l'adaptation de la saga du roman qui a aidé à porter le genre dans les années 50. Je vous parle bien entendu de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. C'est grâce au succès critique et commercial de ces films que bien d'autres de fantasy ont pu voir le jour, comme La Demoiselle et le Dragon, film que je vous ai évoqué en préambule. Après, le genre a su aussi faire son bout de chemin sur le petit écran. La série La Belle et la Bête en 1987. Plus tard, dans les années 90, Hercule et son spin-off Xena la guerrière. En 2009, nous avons Camelot, Cocorico de Alexandre Astier. Et en 2011, arrive la consécration du genre Game of Thrones. Il faut dire, on en parle encore aujourd'hui avec House of the Dragon spin-off pour série dérivée du Trône de Fer, dont la saison 2 arrive cet été 2024. Pour ce qui est des jeux, le premier du genre est le jeu de société Donjons et Dragons de Gary Gygax et Dave Arneson, sorti en 1974. Et c'est à plus ou moins au même moment que la fantasy arrive dans le jeu vidéo avec Colossal Cave Adventure. Mais c'est vraiment avec les années 80 et des jeux comme Dragon Quest, The Legend of Zelda, Final Fantasy que le jeu de rôle fait ses grands débuts. La fantasy continue de faire parler dans le média vidéoludique et continue de gagner en puissance au fur et à mesure du gain de puissance des PC et consoles. World of Warcraft, The Elder Scrolls, Fable, et j'en passe en sont les fers de lance. Même si certains plus ou moins connus jouent de ce genre et nous arrivent assez régulièrement. Le fantastique continue donc de faire voyager et rêver. C'est une invitation à l'aventure, dont voici quelques œuvres que j'ai visionnées et qui, justement, devraient aider à vous faire partir à l'aventure. C'était La Mante de Ramin Djawadi, une musique que l'on peut justement entendre dans la série House of the Dragon. Mais ceci étant dit, je vous propose que l'on revienne à ce que j'ai à vous dire sur quelques œuvres du genre fantasy.
La vie sur...
Waouh, je m'impressionne, je suis en train de jongler entre les sons. Ouf, allez, respirons et parlons justement de la demoiselle et le dragon. C'est un film d'action-aventure fantastique de Juan Carlos Fresnadillo. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire, monsieur ? Oh, purée ! Ah, c'est lui qui a fait 28 semaines plus tard, en tête d'affiche de La Demoiselle et le Dragon de son titre VO Damsel. On ne peut pas vraiment la louper puisqu'elle est à l'affiche de nombreux films. Je vous parle de Millie Bobby Brown, Eleven dans Stranger Things, Elona Holmes dans les films Enola Holmes, qui, tout comme notre long métrage du jour, sont des produits Netflix. C'est à se demander si elle a joué dans d'autres choses. Attendez, je regarde. Godzilla 2, le roi des monstres. Ok. Godzilla Cross Kong. Bref. Passons. La demoiselle et le dragon de son titre VO donc. Damsel, quoi qu'est-ce donc ? Synopsis. Une jeune fille dévouée accepte d'épouser un prince séduisant, mais elle découvre qu'elle a été choisie pour être sacrifiée et remboursée, ainsi une dette ancienne. Enfermée dans une grotte, elle doit affronter un dragon cracheur de feu. Elle ne peut désormais plus compter que sur son intelligence et son courage pour espérer s'en sortir.
Je t'ai trouvé un époux. Un prince. C'est une nécessité. Notre peuple a besoin de toi.
Il faut que tu m'écoutes attentivement. Je ne leur fais pas confiance. Ces gens sont peut-être de sang royal, mais cela n'en fait pas pour autant de bonnes personnes.
Votre main, mon enfant.
Fermez les yeux. Je vous tiens.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre.
Aidez-moi!
Peut bien s'écrouler. Le maman qui m'aime.
Que t'est-il arrivé?
Élodie, vous rejoindrez une longue lignée de femmes qui ont aidé à bâtir ce royaume. C'est ce sacrifice que nous commémorons à chaque génération. Une tradition qui remonte à plusieurs siècles. C'est un héritage d'honneur et de devoir que vous recevez aujourd'hui, princesse Élodie.
Innocentes qui ont perdu la vie.
Saisissez-la.
Élodie.
Vous ne savez rien de notre histoire.
C'est ici que s'achève votre histoire.
Mouais. Le Édith Piaf en fond de la bande-annonce aurait dû m'alerter. M'alerter sur ce qu'il m'attendait, hein, parce que en plus déjà, cette bande-annonce, spoil, révèle allègrement le gros de l'intrigue, si ce n'est son dernier tiers. Donc, comme vous avez pu le comprendre, ça commence de manière assez niaise avec une princesse que son père promet sans vraiment son consentement à un prince. Millie Bobby Brown joue du Millie Bobby Brown. Son jeu ressemble beaucoup à ce qu'elle nous a déjà proposé dans de précédents films. Je pense notamment à Enola Holmes où elle joue aussi le même type de personnage féminin qui cherche à prouver son indépendance face à ses pairs masculines. Quand le premier acte est terminé, un premier acte pas trop déplaisant car introduisant bien certains enjeux de film, on se trouve face à un second acte long, trop long. Le jeu de chasse et de la souris entre Elodie et le dragon est... heureusement qu'il y avait justement le design du dragon pour rehausser le tout. Ça a été une bonne surprise. Et le final est quand même assez abusé. Quand on le voit arriver et quand on voit notre héroïne s'y présenter, on se dit tout ça pour ça ? Et je ne vous parle même pas de la fin qui fait tellement Game of Thrones saison 8. Si vous avez vu la série et la demoiselle et le dragon, vous me comprendrez, je pense. En bref.
D'accord, et restons zen.
La demoiselle et le dragon n'est clairement pas le film de fantasy du siècle. Il a tout de même le mérite de proposer une intrigue, un postulat intéressant là où d'habitude nous aurions eu un prince vaillant ou autre qui serait venu voler au secours de notre princesse en détresse. Il y a de l'idée dans le fond, également dans le background qui amène toute cette situation avec le dragon, mais la forme peut mieux faire quand même. C'est passe-partout. Générique même, si ce n'est qu'on peut peut-être tirer les choses par le haut grâce à quelques musiques. Puis, c'est long pour ce que c'est, 1h47 quoi. On aurait pu amputer le second acte d'un bon quart d'heure pour aller à l'essentiel. Ça aurait pu aider à rendre le tout plus digeste.
Love's a burning thing. It makes a fiery ring. Bound by wild desire, I feel it to a ring of fire. I feel it to
c'était Likely pour une cover de la chanson. Ah, le son qui devait se déclencher, le fail. C'était donc Likely pour une cover de la chanson Ring of Fire de Johnny Cash. Et pour la suite, ben, je vais vous parler de notre œuvre de fantasy. Il y a de ça plusieurs saisons, je vous avais parlé dans Showtime de Mythica, la Genèse. Petit film financé sur Kickstarter à hauteur de la somme de $94,294 qui est sorti en 2014 et qui a à l'affiche Melanie Stone et Kevil Sorbo, Hercule dans la série du même nom. C'est sorti directement en DVD par chez nous en 2016. Ça doit être donc dans ces eaux-là que j'ai dû vous en parler à la radio. Réalisé par Anne Blake, ce premier volet peut se présenter avec le synopsis que voici. Un guerrier, un voleur et une apprentie magicienne, Tain, Dagon et Marek s'unissent pour libérer la sœur de Tila des mains d'un ogre. Tous se lancent dans une quête remplie d'épreuves au cours de laquelle ils vont devoir affronter des créatures maléfiques. Simple sur le papier, ce synopsis n'est pas sans renvoyer à des éléments évoqués plus haut et ou propres au genre de la fantasy. Il n'y a pas à dire, l'inspiration Donjons et Dragons, jeux de rôle, jeux de fantasy est là. Le film transpire littéralement toutes ces choses. Ça passe par des très beaux plans naturels, des effets visuels qui savent se faire discrets, mais qui peuvent tout de même se faire remarquer. Après, le faible coût de production du film permet de les excuser. Il est tout de même à souligner que l'ogre, tout en 3D, pourrait faire pâlir d'envie certaines des productions actuelles. La musique de Nathan Udrou, elle, nous transporte tout du long de la quête de nos héros. En bref. J'ai trop de son, moi. J'ai loupé le D'accord et Restons Zen d'Ace Ventura. C'est pas grave. Donc, en bref, depuis ma première présentation sur la Radio Larzac, j'apprécie toujours autant. C'est petit par le budget, mais grand par la passion. Bon, après, avec les années et l'œil qui s'est aiguisé quant à mon regard critique sur les productions ciné, les faux raccords se voient. Et certaines autres fausses notes sont remarquables. Heureusement, le format 2x2 permet justement d'engommer certaines. Merci ce format-là pour les effets visuels. Ça permet de les cacher un temps soit peu et de ne pas trop les rendre flagrants, même si ils sont là. Mais pourquoi vous en parler de Mythica dans cette émission? Encore une fois, la thématique s'y prêtait largement. Et en plus, depuis 2020 à peu près, j'ai enfin tous les 5 films que compose l'aventure Mythica. On ne va pas se cacher que cette pentalogie est tout de même un produit de niche. Chez nous, elle a quand même été vendue comme
à la croisée des chemins entre Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones.
Et comme souvent avec ce genre de produit, les premiers opus sont édités à plusieurs exemplaires, ce qui fait qu'ils sont assez facilement trouvables, et ce qui ne peut forcément pas être le cas des derniers opus qui peuvent être édités à moindre échelle si le succès n'a pas été rencontré avec les premiers volets. Ici, c'est clairement le cas. J'ai galéré à trouver d'occasion et à bon prix le 5e opus. Certaines offres montaient jusqu'à presque 50€, c'est vous dire. Enfin, ça y est, je les ai et je ne cache pas mon plaisir à les visionner. J'ai regardé jusqu'au 3e volet et c'est fascinant de voir l'évolution de la qualité du projet. Vraiment, l'écart est grand entre le second et le 3e opus, rien que l'aspect du générique de fin est là pour en témoigner. Bon, après, oui, l'histoire est simple et ne casse pas trois pattes à un canard. Surtout, lorsque l'on est féru du genre, on entreaperçoit les différentes inspirations du récit. Mais ça s'apprécie. En tout cas, j'apprécie. Sur bien des aspects, ça pourrait presque faire penser à l'évolution qu'a connue la web-série Noob. Vous savez, cette web-série française sur un jeu vidéo massivement multijoueur, un meuporg du nom d'Olidri. Mais je m'égare. Bah tiens, j'y pense. Si vous connaissez Mythica, que vous appréciez ou pas, n'hésitez pas à me le dire en me contactant sur les réseaux @chat-8fouineur ou en m'écrivant à showtime.radiolarzac@gmail.com ou oneroi.studio@outlook.com. Le micro est à vous. Hey, je me suis pas fait avoir par la transition pour la prochaine thématique cette fois. Du coup, c'était I'll Be Free, la musique, le thème principal de Mythica, la genèse, Quest for Hero. Et maintenant, je vous propose de parler de toute autre chose, d'un jeu vidéo. Comment parler fantasy sans vous parler de Final Fantasy? Ici, c'est de la suite du remake de 2020 du 7e opus sorti originellement en 1997 sur la première station de jeu, dont je vais vous parler, que je vais vous présenter, que je vais essayer un petit peu de vous décortiquer. En tout cas, vous avez tous suivi avec cette superbe phrase, mais oui, c'est de Final Fantasy VII Rebirth donc qu'on va parler, mais ça je vous l'ai déjà dit. C'est un jeu sorti pour le moment sur la station de jeu numéro 5 et qui se présente ainsi. Final Fantasy VII Rebirth est la suite de Final Fantasy VII Remake, le projet de remake de Final Fantasy VII sorti initialement sur PS1 en 1997. Ça fait beaucoup de 7. Alors que Cloud et ses amis s'enfuient de Midgar, ils poursuivent leur quête de vérité, tandis que l'ombre de Sephiroth plane toujours sur eux. Sephiroth ! Pardon. Donc, oui, par où commencer ? Par l'histoire. Une histoire qui reprend directement après les événements donc du précédent volet. Un précédent volet qui s'était conclu avec une confrontation épique contre notre Némésis Sephiroth. C'est donc ainsi, suite à cet affrontement, que notre groupe de héros part en quête d'un moyen pour stopper les plans de Sephiroth et aussi pour empêcher la compagnie Shinra d'épuiser davantage les ressources de la planète. Et ouais, l'histoire de FF7, qui date de 1997 et qui est ici enrichie, avait tout de même un discours avant-gardiste, car écologique. Oh, un jeu vidéo écologique ? Mais comment est-ce possible ? C'est pas censé rendre irresponsable et violent ? Alto cliché, merci. Du coup, pour vous expliquer un peu ce jeu, le monde de FF7 Rebirth se présente au travers de plusieurs grandes zones ouvertes. Pardon, j'ai du mal à en parler comme un vrai monde ouvert. Donc, ces différentes zones, il y aura, comme dans tout jeu de ce type, des objectifs annexes à accomplir, tours à activer pour révéler la carte et des objectifs aux alentours. Des chasses de monstres, des trésors à découvrir, des mini-jeux divers et j'en passe, il y a à boire et à manger. Et c'est sans compter la quête principale et les quêtes secondaires qui vont se présenter au fur et à mesure de notre avancée. Actuellement, j'en suis presque à 70 heures de jeu et j'en suis qu'au chapitre 10 sur 14 du titre. Au point où j'en suis, je traverse la 5e sur 6 des zones ouvertes qu'il nous est proposé et au début, ça peut amuser de tout poncer, d'accomplir tous les objectifs. Au bout de 60 heures de jeu, refaire encore et toujours la même chose, comment dire, ça fatigue. Heureusement que quand l'histoire est là, elle est là. Sinon, je crois que j'en aurais rapidement lâché la madotte. En plus, faut dire quand même sur station de jeu numéro 5, console de nouvelle génération, plus si nouvelle que ça, mais qui est quand même censé proposer des graphismes à couper le souffle. C'est le cas. Mais on est loin du résultat bluffant et saisissant qu'on aurait été en droit d'attendre pour une production de ce type. Sans compter que parfois, la doublage VF est quelque peu inégal, pour pas dire tombe à plat. Mais dans un sens, ça renforce la naïveté de certaines situations et apporte la légèreté propre au jeu d'origine. Heureusement, les musiques sont là pour nous transporter. Quand bien même, on retrouve parfois un peu trop de variantes du même thème, par moments, je pense surtout au thème principal qui est le thème de combat. Il est rejoué avec différentes sonorités au niveau instrumentalité. En bref.
D'accord, et restons zen.
C'est difficile de pouvoir vous en dire plus sans avoir terminé le titre. Mais je pense que la conclusion finale de cette fantasy...
Il est drôle, le monsieur.
Tiendrait plus à son histoire principale qu'au côté rébarbatif qu'il nous serait proposé. Donc, à moins d'un « waouh » de retournement de situation appelé à intervenir et qui a tout intérêt, sinon je m'en serais pas de... Bah, de grogner, de le faire savoir, de le dire. Bah, outre ça, sinon Final Fantasy VII Rebirth, ça se joue, on se prend au jeu. C'est dur par moment de ne pas lâcher la manette, voire de se projeter sur un nouveau jeu tellement on est pris à ce jeu. We'll be right back. c'était Advent One Winged Angel de Nobuo Uematsu, la version remixée que l'on peut entendre dans le film d'animation en image de synthèse Final Fantasy VII Advent Children. Et voilà, c'est que déjà, le gros de la mission est passé et j'ai déjà eu beaucoup dit hein, sur la thématique de la fantasy. Une thématique que je prendrais plaisir à partager avec d'autres personnes hein, qui seraient intéressées d'en parler parce qu'il y a encore beaucoup de sous-genres à explorer. Hein. Je peux vite vous en parler rapidement parce que j'ai une petite fourchette de temps, mais on peut parler de médiéval fantastique, médiéval fantasy historique, fantasy arthurienne, fantasy urbaine, fantasy orientale. Purée, ça existe ça ? Dont les univers exotiques évoquent l'Orient ou l'Asie. Waouh ! Fantasy animalière, fantasy mythique, science fantasy, space fantasy. Et il y a aussi encore des autres sous-genres comme la light fantasy, le dark fantasy, l'heroic fantasy. C'est que ça en fait, hein ? Et en une heure de temps, c'est difficile, ça serait difficile de bien t'explorer. Déjà que là, ça a été. Des quelques recherches que j'ai faites, ça n'a pas été évident à bien décortiquer. Mais aussi, vous parlez aussi de quelques œuvres sur le sujet, je trouvais ça intéressant. Donc, c'est pour ça que l'émission a été ainsi segmentée, même si j'avoue que c'est un peu la mission du speed, parce qu'il y a eu beaucoup de sons, beaucoup de musique pour une fois. Mais au final, je trouve que, je ne suis pas si mal tiré pour un épisode de Showtime qui touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que j'aurai encore peut-être beaucoup de choses à vous dire. Hein. Moi, c'est toujours, hein, je le dis à chaque fin d'épisode, hein, comme ça. Mais moi, je prends toujours autant de plaisir hein, à préparer ces émissions. Et je réfléchis déjà à la suite. Déjà, bon, il y a un projet. Faudrait que j'y arrive un jour à Oneroi Hill, hein, à finir cette saison 2. J'arrête pas de le dire. Ça fait depuis cette première saison que j'en parle. J'espère y arriver pour cet été, cette rentrée. Pour ce qui est de Showtime, j'ai une petite envie folle. Faudra que je voie avec la radio si c'est possible, mais j'aimerais en faire une bimensuelle. Tous les 15 jours du Showtime, j'ai envie de me lancer ce défi pour la suite. Enfin bref, j'espère hein, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur mes différents réseaux sociaux, chat-du-8-winner, ou à m'écrire à showtime.radio@gmail.com ou à oneroi, oneroi.studio au pluriel, @outlook.com, où vous pouvez également le dire, écrire un petit mail à la radio ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir lorsque c'est constructif et que ça donne de l'énergie pour la suite. Merci Radio Larzac de continuer à me diffuser. Merci à vous, auditeurs, pour m'avoir écouté. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc au mois prochain pour la suite.